Et un auteur qui m'a inspiré cette semaine en préparant mon message, Jerry Bridges. Alors, j'ai demandé qu'on projette son livre qui, malheureusement, je crois, n'a pas été traduit en français. True Community, c'est quoi? The True Practice of Koinonia. Donc, communauté, en grec, koinonia. Je le prononce bien? Ça fait longtemps que j'ai lâché le grec, là. J'ai un peu rouillé. Koinonia. Alors, Jerry Bridges qui a écrit plusieurs ouvrages, puis je vous recommande celui-là, si vous lisez l'anglais. Il a écrit toutes sortes d'autres ouvrages, mais celui-là qui nous concerne particulièrement, vu qu'on est dans la première épître de Jean, qui est l'épître de la communion. Alors, on est dans les épîtres pastorales, donc Jean a écrit une de ses épîtres, en fait, il en a écrit trois parmi les épîtres pastorales. Mais celle-ci, la première épître, est vraiment, vraiment l'épître de la communion. Et il y a peut-être trois observations que je voudrais faire avec vous, si je sais compter. Un, deux, trois, quatre. Quatre observations que j'aimerais voir avec vous ce matin. On va lire le texte pour commencer. Alors, 1 Jean, chapitre 1, les versets 1 à 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, Jean se présente comme un des apôtres, et on sent sa passion à vouloir nous annoncer ce dont il a été témoin physiquement, en chair et en os, durant ces trois années où il a été avec le Seigneur, il a marché avec lui, et c'est impressionnant de voir comment Jean va lister tous les sens. Il va dire qu'il l'a entendu, qu'il l'a vu, et pas non seulement vu, mais qu'il a contemplé la parole de vie qui a été manifestée. Il va répéter deux fois le fait que la parole de vie incarnée leur a été manifestée. Et puis, on sent là-dessus, comme vous pouvez sans doute vous en douter, vous l'avez déjà entendu, que Jean répond un peu aux gnostiques de l'époque. Donc, il faisait la promotion d'une expérience mystique qui leur apportait une connaissance et qui les rapprochait de Dieu au détriment de la parole, au détriment de la foi historique révélée et enseignée par les apôtres. Et ça me fait penser un peu à certains milieux aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Malheureusement, dans certains milieux, soi-disant évangéliques, on fait cette promotion-là d'une expérience extra-biblique au détriment des Écritures. Mais attention, il n'est pas ici de pousser du revers de la main l'expérience, parce que si vous portez attention à ce que Jean est en train d'écrire, il fait la promotion d'une expérience chrétienne. Lui, de première main, a vu, pour lui a été manifestée la parole de vie incarnée, et puis va rendre témoignage avec passion aux gens à qui il s'adresse ici dans la lettre, afin qu'ils puissent expérimenter cette présence du Seigneur dans leur vie, d'où le mot « communion ». Ok, donc, ce n'est pas une communion qui flotte, intangible, insaisissable, un concept théorique, c'est une réelle expérience du Seigneur présent dans nos vies, autant que pour ses disciples qui ont été témoins de première main et pour qui Jésus a été manifesté en chair et en os. Donc, il y a une expérience, des fois, extra-biblique, mystique, où on dit il y a quelque chose de plus que ce que les Écritures m'enseignent, quelque chose de plus que ce que le Saint-Esprit peut me révéler à propos de Jésus, qui est dangereuse. Par contre, le Seigneur vient et veut se révéler à nous. Et puis, c'est ce que Jean annonce avec passion. Et puis, il va répéter à deux reprises, comme je le disais, que Jésus leur a été manifesté. Ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils l'ont admiré, ils l'ont contemplé. Et puis, c'est ce que Jean rapporte à l'Église ici. Bien, l'Église, c'est plus ou moins clair à qui Jean va s'adresser, mais on sent ce cœur de pasteur. Ça, c'est clair. C'est pas pour rien que c'est une épître pastorale. Vous êtes d'accord avec moi qu'on sent ce cœur de pasteur de Jean qui va s'adresser aux gens à qui il crie, comme à ses petits-enfants, comme à ses bien-aimés. Donc, on sent cette approche intime de Jean face au destinataire de la lettre. Et puis, il écrit vraiment comme pour conduire les gens à Jésus. Donc, c'est vraiment le rôle du pasteur, conduire les gens à Jésus, conduire les brebis au bon berger. C'est vraiment l'essence du rôle, la mission du pasteur. Conduire les gens à Jésus, conduire les brebis, le peuple de Dieu, vers le bon berger. Toujours. Toujours. Et puis, c'est gnostique, donc, voulait détourner les gens de l'enseignement des apôtres, de la manifestation que Jésus a donnée de lui-même, de la foi historique, pour une supposée expérience qui allait les rapprocher, soi-disant, de Dieu. Alors, c'est l'épître de la communion. C'est l'épître de la communion parce que quatre fois, entre les versets 3 et 7, le fameux mot koinonia va être répété. Et puis Jean, sans se limiter à ce mot-là, va poursuivre, va développer tout au long de sa lettre cet aspect-là de la communion qui a une dimension verticale, évidemment, et une dimension horizontale. Donc, une dimension entre nous et Dieu, puis une dimension entre nous, croyants. Et évidemment que la dimension horizontale repose sur la dimension verticale. Donc, plus je découvre cette communion intime, plus j'approfondis cette relation avec le Seigneur dans mon expérience de tous les jours, plus notre relation, notre communion fraternelle va en être affectée. Donc, c'est toujours comme ça dans notre marche avec Dieu. La même chose pour l'amour, qui est une caractéristique de la communion. Des fois, on va en parler vraiment spécifiquement par rapport à l'amour. Mais si on s'arrête ici sur cette réalité-là, sur cette communion, c'est toujours l'aspect vertical entre nous et Dieu qui va influencer, qui va être la base de fondement de notre expérience comme communauté, l'expérience qu'on va faire de la communion fraternelle entre nous. Et qui va nous amener à développer des rapports de relations qui vont aller un peu plus que la pluie et le beau temps, discuter de la pluie et le beau temps, qui vont nous amener à développer des rapports où on va s'encourager, où on va annoncer, un peu comme l'apôtre Jean, les bontés de Dieu, où on va être des porte-parole pour édifier et puis raconter ce que Dieu a fait dans nos vies, comment il a été bon pour nous. Alors, c'est ce que va faire une relation de plus en plus approfondie entre nous et Dieu. C'est l'effet que ça va avoir. Alors, cette dimension-là, verticale, est déterminante. Puis, Jean... Donc, juste pour terminer avec un peu l'introduction, puis comment Jean se présente, comment il présente sa lettre. Jean veut vraiment faire connaître la vérité à propos de Jésus. Donc, on vient de parler des gnostiques, on vient de parler de certains dérapages qui peuvent avoir lieu dans l'Église. Jean a cette passion pour faire connaître, pour annoncer la vérité à propos de Jésus. Parce que c'est important d'approcher Jésus sur la base de comment il s'est manifesté à nous. Ça a l'air niaiseux, je te dis, là. Mais c'est vital, et puis c'est ce qu'il développe, c'est un des points qu'il va développer dans sa lettre, c'est vital pour approfondir cette intimité-là avec lui, de s'approcher de lui selon ce qu'il a révélé de lui-même. Et puis c'est ce que le Saint-Esprit va faire, va continuer à faire dans nos vies. Donc, il veut faire connaître la vérité à propos de Jésus, puis nous amener à servir Dieu selon ses propres termes. Servir Dieu selon les propres termes, selon les termes de Dieu. Et quand on lit les premiers versets de sa lettre, on voit que Jean n'est pas du tout dans le domaine des idées, de l'imagination, de la spéculation ou de grandes théories. Jean vraiment rend témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a connu, de ce qu'il a expérimenté du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il va dire « Notre communion est avec lui et puis je veux vous emmener à partager. » Parce que la communion, qu'est-ce que c'est? C'est de partager quelque chose de significatif, d'important. Et en parlant de partage, souvent on est un peu comme une gang, comment je pourrais dire ça en termes polis, un peu ignorant. Hein? Donc la marche de chrétienne, c'est de découvrir de plus en plus les trésors, hein, les trésors qu'on peut puiser dans cette relation. Et puis on est un peu des fois avec nos biscuits soda, puis on n'est pas conscient qu'il y a un festin devant nous. Hein? Et puis on est là, la tête baissée, puis on se contente de nos biscuits soda. J'avais en tête Kraft Dinner, mais je ne veux pas insulter personne. Biscuits soda, c'est... J'aime le Kraft Dinner moi-même. Mais mettons, allons-y dans l'extrême, OK? Les biscuits soda, seuls, c'est vraiment... ça peut dépanner. Donc, on est un peu comme ces gens-là en train de se contenter de biscuits soda, inconscient du festin qui est là à côté de nous. Et puis, Jean est là et puis veut nous réveiller. Il veut nous ramener sur la présence de ce festin, de ce trésor dans lequel on est appelé à puiser. Parce que la parole de vie a été manifestée, comme je disais. Et ce Jésus que Jean a connu et qui nous présente encore et encore, c'est ce Jésus palpable. C'est drôle à dire, hein? Ce même Jésus que Jean a touché, qui a entendu, qui a admiré, contemplé, c'est le même Jésus qu'on adore aujourd'hui. Il est là, présent avec nous. Imaginez-vous, le Seigneur ressuscité, Dieu tout-puissant, est capable de dissiper les ténèbres. Il est le seul à pouvoir prendre des pécheurs, en faire des saints, à prendre des gens complètement perdus, paumés, et puis les relever, sortir de la boue. Il est seul à pouvoir appeler des gens morts à la vie. Et c'est ce Seigneur Jésus que Jean a connu, ce Jésus palpable qui vient, qui nous présente encore et encore. Et il nous appelle à la communion, il nous appelle à partager cette vie même de Jésus-Christ. C'est John Piper qui dit « Quand Dieu devient homme, les hommes cessent d'être la mesure de toute chose. Et cet homme devient la mesure de toute chose. » Alors, cette révélation du Seigneur dans nos vies va amener un shift complet de la personne qui est au centre de l'histoire. C'est cet homme, Jésus, qui devient la mesure de toute chose. Alors, première observation, c'est que Jean veut que nous connaissions la vérité à propos de Jésus. Deuxième observation, c'est que Dieu désire cette communion. Dieu désire cette communion avant même qu'on ait pensé possible d'avoir une communion avec lui. Avant même qu'on ait pu vouloir cette communion-là, lui l'a désiré et il a payé le prix pour ça. Il a payé le gros prix pour rendre possible cette communion, pour qu'on puisse partager sa vie. Alors, Dieu désire cette communion. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à cette communion-là, lui qui a désiré cette communion et qui a payé le prix pour qu'on puisse entrer dans cette vie avec lui, partager cette vie. Et puis j'aimerais m'adresser ce matin à peut-être certaines personnes qui ont l'impression d'être à peine tolérées dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y en a. Je sais que certaines personnes se sentent à peine tolérées dans la présence de Dieu. Ils se disent, oui, je crois que mes péchés sont pardonnés. Je crois que mes péchés sont effacés. Mais c'est comme si je suis amené en terrain neutre, puis c'est à peine si Dieu me tolère. Il a fait en sorte que, bon, au moins, je ne suis plus un affront, parce que la question du péché était réglée. Mais J'aimerais vous rappeler ce matin que si Christ a porté nos fautes, c'est pour nous introduire dans cette relation intime avec lui. Ce n'est pas simplement pour nous emmener en terrain neutre. C'est pour découvrir cette richesse, une relation riche avec lui. Comprenez-vous la distinction? Donc, à ceux qui se sentent à peine tolérés, rappelez-vous que Dieu a désiré cette communion-là avec vous. Dieu le désirait, aussi incroyable que ça puisse paraître, le désirer cette communion-là avec moi. Parce que Christ a payé le prix. Et il n'y a plus rien qui fait obstacle pour que cette communion puisse s'approfondir, s'établir. Et en passant, je vous parlais de l'auteur tantôt, de Jerry Bridges. Il faut prononcer le S à la fin, j'imagine, en anglais, tu prononces tout le S. Et Jerry, on va l'appeler Jerry. Donc, il va dire que l'expérience qu'on fait de cette communion-là avec le Seigneur repose sur... En fait, cette expérience-là, on peut dire que c'est subjectif. Hein? On va la vivre ici, les gens dans l'Église vont la vivre à différents degrés, différents niveaux. Mais repose sur un fait objectif. Donc, la communion que les Anglais vont appeler « fellowship » repose sur un fait objectif, sûr et certain. Et c'est l'œuvre de Dieu qui nous a unis à Christ. Donc, c'est le fameux « en Christ » que Paul va utiliser dans beaucoup de ses lettres. Et donc, il nous a placés en Christ. Et donc, ça, c'est l'union qui est le fait objectif et fondée sur cette réalité-là. Après ça, on va en faire une expérience plus ou moins grande. Mais son invitation, et puis il nous a tout donné en sorte qu'on puisse goûter pleinement à sa présence, puis à cette communion, à cette relation intime avec lui. Et puis, ça, Jerry, donc, notre auteur ici, il va identifier quatre approches de la vie chrétienne. Okay? Parce que quand on parle d'union avec Christ, hein, vous comprenez qu'on parle de dépendance. Donc, on est lui, on était placé en lui, sa vie est en nous et on dépend de lui. On dit souvent, je ne peux rien faire sans toi. Galates 2:20. Et puis donc, il va identifier quatre approches à la vie chrétienne. Première approche, c'est celle où tout dépend de moi, tout dépend de mes efforts. Donc, c'est moi qui va faire arriver les affaires. C'est moi qui va faire arriver ma maturité. C'est moi qui va faire avancer ma sanctification. C'est moi qui va faire avancer l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est moi qui va faire avancer. Comprenez le principe? Ça dépend de mes efforts. Donc, Dieu fait la première part, qui était de me sauver. Okay? C'est un peu comme le terrain neutre dont je parlais tantôt. Et puis, à partir de là, à partir de ce moment-là, ben, tout dépend de mes efforts pour ma croissance. Deuxième approche qu'il va identifier, c'est que tout dépend de Dieu. Alors, peut-être une mauvaise compréhension de « sans Christ, je ne peux rien faire ». Eh bien, si je ne peux rien faire sans lui, ben, on tombe dans une espèce de passivité. Ou si je tombe dans le péché, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça ne dépend pas de moi. OK? Donc, il n'y a plus où tout effort de ma part est exclu. OK? Donc, c'est complètement l'inverse. Troisième approche, c'est ça dépend de moi jusqu'à un certain point. Et puis ça, je pense que c'est l'approche qui est la plus répandue. Ça dépend de moi jusqu'à un certain point. Je fais mon possible, mais rendu à un certain point, là, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Fait que genre, je fais un bout du chemin. Et à un certain point, mais là, je ne suis plus capable. Les combats sont trop difficiles. La montagne est trop haute à gravir. Seigneur, au secours, viens m'aider. Et puis, peut-être qu'on peut se dire, ben quoi, c'est légitime. À l'aide, Seigneur. Il y a une petite nuance. C'est fort, hein? Je ne sais pas si c'est moi qui parle fort. Ou... Je ne vous casse pas les oreilles ce matin, ça va? OK. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, ça dépend de moi jusqu'à un certain point. Après ça, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu finisses la job. J'ai besoin que tu me donnes le peu qui me manque pour grandir en maturité, pour t'obéir, pour remonter, relever le défi qui est devant moi. Vous comprenez? Et quatrième approche de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu, Et puis c'est ce que ici, en fait, c'est l'approche biblique. C'est que tout en marchant, donc c'est moi, la vie, marcher avec Dieu, là, ben c'est personne d'autre qui marche que moi. Hein. C'est moi qui marche. J'ai toutes sortes de j'ai toutes sortes de défis devant moi, j'ai toutes sortes de péchés à combattre. Bon, c'est un combat, la vie chrétienne, mais c'est moi qui marche. Et tout en marchant, mais je me tourne vers lui. Donc, il est vraiment question d'une attitude de cœur que les Écritures vont déclencher, illuminées par le Saint-Esprit. Tout en marchant, je me tourne vers lui en lui demandant de me rendre capable. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Donc, j'ai l'impression que c'est moi qui fais les choses. Mais il est vraiment question aussi d'une attitude de cœur où, pendant que moi, je marche, je vois le Seigneur, par sa grâce, accomplir des choses que je n'aurais jamais pu accomplir. Remporter des victoires que je n'aurais jamais pu remporter. Mais c'est moi qui marche, c'est moi qui combat, c'est moi qui fais des efforts. Mais comme Paul, je sais que sans sa grâce, c'est impossible. Sans sa grâce, c'est impossible. Donc, je vois le Seigneur, c'est à ce moment-là que je vois le Seigneur vivre en moi. Alors ça, c'est c'est les quatre approches que l'auteur va identifier. Et quatrième observation que je veux faire avec vous. C'est que Dieu désire notre joie. Dieu désire notre joie. Certains commentateurs vont identifier encore quatre, OK? Je ne veux pas tomber dans la numérologie, là, mais il y a quelque chose ici qui se passe. Là. Ça fait deux, quatre. Il y a certains commentateurs qui vont identifier quatre clés aux gens va exprimer ses motifs derrière la lettre qui est écrite. Donc, quatre clés qui nous aident à comprendre les motifs de Jean derrière cette lettre-là. On ne verra pas les quatre, parce que nous, on s'attarde vraiment au premier verset, là, au chapitre 1. Mais la première de ces clés-là, c'est au verset 4. Chapitre 1, verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Maintenant, certaines traductions vont dire que votre joie soit parfaite. Moi, je vous dirais que ce n'est pas grave. Parce que pour l'apôtre, pour que sa joie soit parfaite, il veut, en bon berger, il veut voir une joie complète dans la vie de ses disciples, dans la vie de l'Église. Donc, pour que sa joie soit parfaite comme berger, automatiquement, il faut que la joie soit parfaite aussi dans la vie de ses disciples, de l'Église, qui chérit tant en passant. C'est vraiment un aspect qu'on voit, là, qui transpire dans sa lettre. Il chérit cette Église-là. Il l'aime. Alors, première clé, premier motif, je vous écris afin que ma joie, que notre joie, que votre joie soit parfaite, soit complète. Alors, le Seigneur ne fait pas dans la médiocrité. On l'a chanté tout à l'heure. Il est le seul qui puisse nous combler. Et c'est intéressant de voir que Jean va terminer sa lettre, tout dernier verset, en disant « Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des répliques. Gardez-vous de... » Comment on appelle ça, là, les tu sais, ce qui est vendu, qui est des copies là, sur le marché... On accuse souvent les Chinois, là, mais les pauvres, on met bien des choses sur leur dos. Là. Contrefaçon. Méfiez-vous des contrefaçons. Moi seul peux vous combler et j'ai désiré votre joie. Donc le Seigneur désire que notre joie soit complète. Et cette joie-là va se... Écoutez, juste avant, chapitre 15, verset 11 de l'Évangile de Jean. C'est Jésus lui-même qui le dit. Donc, Jean n'a pas été chercher ça nulle part. Jean 15, verset 11, Jésus va dire, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous voyez? Donc, on joint un peu ce que... Alors, ces choses que Jésus nous a dites, ça doit continuellement résonner dans notre cœur. Ça doit être le fondement de notre approche. Ça doit être le fondement de notre marche. Ces choses que Jésus a dit, je vous ai dit ces choses. Et puis Jean va dire, je vous ai annoncé telle, telle chose que j'ai vue, que j'ai touchée, que j'ai entendue du Seigneur. Ces choses-là doivent continuellement résonner dans nos cœurs. Afin de vraiment goûter cette joie complète que le Seigneur nous a destinée, que Jean désire vivement pour l'Église. Alors, faites attention aux contrefaçons. Faites attention aux faux sacoches Gucci. Ça a l'air pareil. Tu penses que ça va faire la job, mais trois mois plus tard, la sangle pète, puis tu perds tout. Soyons sur nos gardes avec les contrefaçons. Et ça m'amène au... Ça m'amène au point suivant, observation suivante. Comment ne pas se priver de cette communion? Comment ne pas se priver de cette joie que Dieu a désirée pour nous? Bon, je viens de donner un élément là, au niveau des idoles, au niveau des contrefaçons. Jean nous a donné des pistes. Donc, il va dire que Dieu est lumière. Et donc, on ne peut pas prétendre être en communion avec lui si on marche dans les ténèbres. Et tout au long de sa lettre, il va ramener des points comme ça. Il va dire, tu ne peux pas être en communion avec Dieu si tu hais ton frère. La vérité n'est pas en toi. Tu prétends être en communion avec lui, mais que tu hais ton frère, tu t'en fais à croire. Tu prétends des choses qui sont fausses. Et il va donner des pistes comme ça pour d'abord mettre en lumière ceux qui vivent dans la prétention, dans le mensonge, mais pour rassurer en même temps ceux qui marchent avec lui, qui sont réellement dans la lumière, mais qui sont accablés à la vue de leur péché. Donc, je pense que Jean n'est pas simplement en train de corriger l'erreur, mais est en train de rassurer en même temps ceux qui, effectivement, marchent dans la lumière et qui ont besoin d'être rappelés, qui ne sont pas simplement tolérés dans sa présence. Le fait qu'on est aimé, puis qu'on est désiré, et qu'on a été appelé à cette communion-là. Donc, Jean va donner des pistes, et puis il va, en quelque sorte, va nous expliquer que la joie est incomplète si on néglige de rechercher continuellement cette communion verticale et horizontale. Parce qu'on parlait de quatre approches tantôt de la marche avec Dieu, mais j'ai l'impression des fois que notre marche avec lui peut se résumer à faire un paquet de choses pour lui. Attention, le connaître va nous amener, va nous pousser à l'action. Mais des fois, on est peut-être en train de négliger cet aspect de l'intimité à laquelle on est appelé. Et on remplit le vide par un paquet de choses, un paquet d'activités qui nous donnent l'impression d'être en vie. OK? Donc, Jean nous amène à vraiment considérer la communion verticale avec Dieu qui va déclencher une richesse au niveau de notre communion fraternelle. C'est obligé. C'est obligé. Si on néglige cette communion avec lui, communion horizontale entre chacun de nous va en être affecté. Et puis, donc, il nous ramène sur ce terrain-là. Voyez quel trésor on a, que Dieu met devant nous et auquel on est appelé. Et il va parler un peu plus loin, il va nous montrer que la communion passe par la confession. Donc, la communion, l'intimité avec Dieu passe par la confession. Et puis, j'aime beaucoup le verbe grec pour confession. Quelqu'un connaît le verbe grec pour confession? Je l'aime. homologoé. Ah non, je n'ai pas bien prononcé, excusez. Homo logos. Homo logos. Homo même, logos, parole. Être, se mettre d'accord. Hein? Ça me fait penser à quelque chose qui est homologué, qui est rendu conforme à. Donc, la confession, il y a l'aspect négatif, dans le sens où j'appelle ça négatif, où je confesse mes péchés, où je fais connaître, et je me mets d'accord avec lui sur le fait que j'ai péché. Mais la confession, c'est plus large, c'est que je confesse qui il est continuellement. Je me mets d'accord avec ce qu'il déclare de lui-même dans les Écritures, et puis je le loue, puis je l'adore sur cette base-là. Homologos, homologué. Intéressant, hein? Mais il ne s'agit pas donc, par cette piste-là, là, où Jean nous amène à confesser continuellement nos fautes, il ne s'agit pas de se purifier. Confession n'amène pas une purification. Nous sommes déjà purs. Le sang de Christ est efficace. Par contre, je reconnais, je me mets d'accord avec Dieu continuellement. Je ne laisse aucune parcelle de terrain chez nous au terrain, au péché et à la chair qui veut prendre contrôle. Je ne veux laisser aucune occasion à la chair de reprendre contrôle. Parce que oui, nous sommes plus sous la domination du péché, mais la chair peut continuer à avoir une influence. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que je ne vous apprends rien. C'est sans grande surprise que je vous annonce ça ce matin. Alors, il ne s'agit pas de se purifier, mais plutôt de puiser dans un trésor qu'on essaie de nous voler. Alors, comment ne pas se priver de cette joie, petite communion avec le Seigneur? Attention, parce que ce trésor-là, on essaie continuellement de nous le voler. Et de façon, des fois, très subtile. Je n'ai pas besoin de vous parler des grands péchés. C'est gros comme un autobus. On le voit venir. Si on ne le voit pas venir, c'est qu'on est réellement, on marche dans les ténèbres, on ne marche pas du tout dans la lumière. Mais je vous parle de toutes sortes de petites choses. Et je trouve que Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous donne un petit indice à ce niveau-là, parce que l'auteur va dire, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et si on s'arrête et on se demande de quoi l'auteur veut parler quand il parle de fardeau? Ça peut être un tas de choses, hein? Bien, laissez-moi vous proposer quelques éléments, là. Écoutez, moi je vois certaines choses comme un confort qui peut devenir toxique, des relations toxiques, une carrière toxique. Ces choses dans nos vies qui sont légitimes, qui s'accumulent et qui peuvent devenir réellement un fardeau, nous privant de l'intimité avec le Seigneur, nous distrayant, nous écrasant. Et puis, l'auteur va dire, rejetez ces choses-là. Ne laissez pas ces choses-là s'accumuler dans vos vies. Ces choses toxiques, ces relations toxiques, un confort, une carrière... Puis continuer la liste. Est-ce que ce sont des choses qui favorisent ou pas ma relation avec lui? Est-ce que ça favorise ou pas de le connaître en ce moment? Et il n'est pas question de se mettre sous une loi, il n'est pas question de se mettre... Écoutez, est-ce qu'on veut le connaître? Est-ce qu'on veut le connaître? Rejetons tout fardeau. Et des fois, ça prend des décisions drastiques, mais souvent, c'est des petites décisions de tous les jours. Des fois, ça prend un revirement, là, c'est assez, un volte-face, mais souvent, ce sont des petites décisions de jour en jour. Rejetons tout fardeau et il n'est jamais trop tard. Je veux m'adresser maintenant à ceux qui pensent que c'est trop tard, qui ont tracé un sillon. On fait affaire à un Dieu plein de grâce, à qui rien n'est impossible. On l'a chanté aujourd'hui, sa grâce, là, elle ne fait pas juste se chanter, elle se vit. Il est compatissant, assez pour vous sortir de ce sillon-là si vous lui confessez vos fautes, si vous lui confessez ces éléments toxiques dans vos vies. Sa grâce ne faillit pas. Pendant qu'on chantait tantôt, c'est les paroles qui me revenaient continuellement. Et on en discutait ce matin avec Emmanuel, avec les anciens. Sa grâce ne faillit pas. Son amour ne faillit pas. C'est la bonne nouvelle ce matin. Il a désiré cette communion-là. Il a désiré cette joie complète. Et quand Dieu désire quelque chose, laissez-moi vous dire qu'il y a les moyens pour les faire arriver. Êtes-vous d'accord? Il y a les moyens pour faire arriver ce qu'il désire. Donc, tout ce qui peut être un obstacle, tout ce qui peut désavantager ma relation avec lui, je vais le tasser, je vais le mettre de côté. Et des fois, souvent des choses très légitimes, mais des choses toxiques. Vous savez ce que c'est? Peut-être quelqu'un, un scientifique peut m'expliquer un peu la définition de toxique. Mais ce que je comprends dans ma compréhension limitée, quelque chose de toxique, c'est qu'au premier abord, il n'y a pas d'effet. Hein? Un produit toxique sur ma peau, pas mal, mais tu laisses ça, ça gruge. Tu laisses là, ça gruge. Ça gruge, ça gruge, ça gruge. Ça vient attaquer l'environnement dans lequel je vis. Et puis ça, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, mais le Seigneur est tellement bon que ce qu'il a désiré, c'est la joie, une joie complète, et il va le faire arriver. On peut vraiment se confier en lui, il va le faire arriver. Pour conclure, je vais reprendre notre auteur, Jerry Bridges, qui dit « Quelle vérité glorieuse que le Dieu infini et éternel, en la personne du Père et du Fils, désire une communion intime avec nous par le Saint-Esprit. » Quelle vérité glorieuse. Fait que ma prière ce matin, puis on va prier ensemble justement là-dessus, c'est qu'on puisse continuer à marcher et à découvrir cette richesse, de le connaître et de le faire connaître. Et qu'on soit comme une lampe dans ce quartier, comme un phare dans la nuit, pour rappeler au monde que, hey, il y a un Dieu qui peut prendre des pécheurs et en faire des saints, en faire des enfants de Dieu. Il y a un Dieu qui peut arracher les gens à leur, excusez le mot là, mais au merdier dans lequel ils se sont mis, et puis donner une vie nouvelle. Et puis ce Dieu-là, pour des croyants qui marchent depuis 10, 20, 30 ans, qui se sentent liés par des mauvais choix, il est plein de grâce pour les délivrer. Amen. Alors Père, on est devant toi ce matin et puis on veut te dire merci parce que tu nous as établis en Jésus-Christ et cette œuvre-là ne dépend pas de nous, mais c'est vraiment l'œuvre de ta grâce. C'est vraiment incroyable, Seigneur, que tu te sois tourné vers nous. Vraiment pas en attente de quoi que ce soit, mais plutôt pour toi te faire connaître, pour déverser ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu nous as appelés à la communion, tu nous as appelés à la joie, une joie complète, Seigneur. Fais-le dans le cœur de chacun, tout au long de la semaine, dans les semaines à suivre. Et fais-nous découvrir davantage cette intimité, Seigneur, à laquelle tu nous as appelés, comme Paul le dit aux Corinthiens, comme Jean le ramène ici. Merci pour cette vie que tu partages avec nous, avec toutes les richesses qui viennent avec. Bénis chacun, Seigneur. Bénis la rentrée. Accompagne les parents. Merci de continuer à soutenir et puis à bénir l'équipe de l'école ici, la CRN. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et que tu marches au milieu de nous. Amen. Alors, bonne semaine, tout le monde. Soyez bénis.